raison. Nous avons vu tout à l'heure quelques indices pour surmonter les difficultés réelles ou au contraire pas si grandes que ça dans la prière. Alors on peut maintenant se poser la question, mais quels sont les fruits de cette prière persévérante, de cette prière qui est toujours là? Alors on l'a vu, ce fruit en premier lieu, c'est le recueillement. Nous nous retrouvons dans une oraison de recueillement, comme l'écrit sainte Thérèse. Alors vous avez également cette citation à la page 18. Alors non, ce n'est pas la page 18. C'est dans une des pages. Voilà, donc Thérèse nous dit, on l'appelle oraison de recueillement parce que l'âme y recueille toutes ses puissances et rentre au-dedans d'elle-même avec son Dieu. On dirait que l'âme, comprenant enfin que les choses de ce monde ne sont qu'un jeu, se lève au meilleur moment et s'en va. Elle s'en va en elle. Elle ressemble encore à celui qui se réfugie dans une place forte pour n'avoir plus à redouter les attaques de l'ennemi. L'ennemi qui essaie de nous faire croire que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous, alors que le bonheur se trouve à l'intérieur de nous. Le bonheur, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Les sens se retirent des objets extérieurs et les méprisent tellement que les yeux du corps se ferment d'eux-mêmes pour ne plus considérer les créatures et que le regard de l'âme s'éveille davantage. Voilà pourquoi ceux qui suivent cette voie ont presque toujours les yeux fermés quand ils prient. C'est là d'ailleurs une coutume excellente pour beaucoup de choses. Et Thérèse de rajouter, comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une chose surnaturelle, au sens où elle dépend de notre volonté et nous pouvons la réaliser avec l'aide de Dieu, sans lequel d'ailleurs on ne peut rien, pas même avoir une bonne pensée. La prière, donc, c'est un cheminement vers son cœur, vers notre intériorité, là où se trouve Dieu lui-même. Saint Paul disait, en 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» On pourrait ainsi se laisser aller à penser qu'il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a qu'à fermer les yeux, comme dit Thérèse, et tout est fait. Mais ce serait se tromper, ce serait du quiétisme. La prière et le délassement ou l'oisiveté sont deux choses différentes. Oraison et vie douillette, écrivait Thérèse, ne vont pas ensemble. Ce qui se passe dans une prière d'oraison, c'est que spontanément j'en viens à fermer les yeux. Pourquoi ? Parce que trois bienfaits adviennent dans ma prière. Le premier bienfait, c'est que mes sens se retirent aisément. Mes sens, hein, c'est mes yeux, mon regard, mes oreilles, mon odorat, ce que je peux toucher et ce que je peux goûter. Encore une fois, Thérèse nous dit, ceux qui suivent cette voie tiennent presque toujours les yeux fermés en priant. Cette habitude est merveilleuse sur tous les plans. L'âme sent alors qu'elle s'affermit et se fortifie. Sans m'en rendre compte, ou presque, j'ai mes yeux qui se ferment spontanément, puisque Dieu étant présent en moi, ben, je ne vais pas regarder mon nombril par exemple, mais mes yeux se ferment spontanément. Mes oreilles entendent toujours, hein, je ne peux pas les mettre sur off, mais je n'écoute plus. J'entends, il y a des choses qui se passent autour de moi, mais je n'écoute pas de manière attentive, de manière soutenue, qu'est-ce qui peut se dire, ou la voiture qui est en train de passer, ou autre. Mon corps est à la fois ni relâché comme dans un lit, ou ni trop tendu, mais il est comme quand on est dans une position assise. Voilà, il participe, notre corps participe à la prière et au recueillement de notre esprit, et le corps le reflète. Prenez deux personnes, une chrétienne et une personne adepte du yoga par exemple ou du bouddhisme. Vous les mettez côte à côte et vous leur demandez de se recueillir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait peut-être pas l'expérience, mais si vous l'avez déjà remarqué, on perçoit à travers quelqu'un qui prie de manière chrétienne, que c'est mystérieux parce que cette personne, elle est retranchée en elle, elle prie, mais il y a un lien mystérieux qui se fait avec quelqu'un ou quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas, elle n'est pas toute seule. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait entraîné en partie la conversion d'Edith Stein, quand, à sa grande surprise, elle rentre dans la cathédrale de Francfort, je crois que c'était celle de Francfort, je ne suis pas très sûr de moi, et là, elle voit ce qu'elle n'avait jamais vu. Une femme venait avec son panier à provisions, elle venait de faire ses courses, et elle va dans une petite chapelle de la cathédrale, elle pose son sac, elle s'agenouille, elle se met en prière silencieuse, et Edith Stein, qui était une adepte de la phénoménologie, c'est-à-dire qui regardait autour d'elle ce qu'elle pouvait tirer comme enseignement, primordiaux, sans préjugés, découvre qu'il y a quelque chose là de mystérieux, de nouveau. Et ça va être un des éléments de la conversion d'Edith Stein. Quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui fait du yoga ou du bouddhisme, ce qui est très bien, hein, même si les effets sont limités, mais c'est très bien quand même, on perçoit quelqu'un qui est retranché en elle. Et voilà. Nous avons chez nous les frères Carme Rufferandi, une personne qui est adepte du yoga, et je vous assure qu'on voit la différence quand elle est en recueillement yoga et quand elle est en recueillement chrétien. Alors que la position est exactement la même, soit sur un petit banc, soit avec les jambes, je ne sais pas comment on dit là, un petit peu repliées sur elle-même. Je vous assure que d'un simple point de vue phénoménologique, on le perçoit. Et l'esprit, nous dit sainte Thérèse, se recueille avec l'habitude beaucoup plus brièvement, et c'est une oraison qui apporte de nombreux bienfaits. On l'appelle recueillement parce que l'âme recueille toutes ses puissances, c'est-à-dire les cinq sens, et pénètre à l'intérieur d'elle-même avec son Dieu, et bien plus brièvement que par tout autre biais, son divin maître lui prodiguera son enseignement. Donc Thérèse remarque qu'avec l'habitude, le recueillement vient là beaucoup plus rapidement, alors qu'avant, on lisait l'écriture, on méditait, on n'essayait pas trop regarder la montre, mais finalement, Dieu étant présent, Dieu nous attirant à lui comme le plus grand des aimants qu'il est, le recueillement vient assez rapidement. Et puis, un deuxième bienfait de cette oraison de recueillement, c'est qu'on commence à prier avec plaisir. C'est la formule de sainte Thérèse. Pour moi, écrit-elle, là aussi vous l'avez dans les livrets, pour moi, avant que le Seigneur ait daigné m'apprendre cette manière de prier, je n'ai jamais su, je vous l'assure, ce que c'était que de prier avec plaisir. Ce sont les avantages que j'ai retirés de ce recueillement intérieur. En effet, une relation vivante, intime, singulière, commence vraiment à s'établir, Dieu voulant se communiquer à l'âme, et l'âme, de son côté, étant bien disposée pour recevoir la présence de Dieu et de laisser déployer la présence de Dieu en elle. Et Thérèse appelle cette réalité un échange d'amitié. Ressouvenons-nous, encore une fois, c'est la quatrième ou cinquième fois qu'on va la citer, l'oraison n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un échange d'amitié avec celui dont nous nous savons aimer. Une relation vivante, singulière, intime, vraiment, s'instaure. Comme cette relation de plus en plus intime qui va s'instaurer entre Jésus dans l'Évangile et ce jeune homme riche, même si la fin va être un peu décevante, mais on voit au début, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ?» Jésus répond, l'échange d'amitié commence, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Cela, on le vit dans l'oraison. Quand je suis en prière, quand cet échange commence à advenir, j'ai une conscience plus aiguë de mes manquements. Pas possible qu'il en soit autrement. Je m'approche de quelqu'un qui est la divinité, qui est parfait, qui est l'amour absolu, et moi, comme mon miroir, je me rends compte combien je suis faillible, combien j'ai des péchés, etc. C'est normal. On ne peut pas avoir conscience de son péché si ce n'est pas l'Esprit Saint qui me l'indique. C'est pas possible. Quand j'étais étudiant au Centre Sèvres, aux facultés Loyola à Paris, le père Bernard Cesboué, d'heureuse mémoire, nous relevait cette petite anecdote qu'il avait vécue lui-même. Il était membre d'un jury auprès d'un doctorant. Donc l'étudiant était là, il était en train de passer sa thèse de doctorat devant un jury dont Bernard Cesboué faisait partie. Et malheureusement, cet étudiant avait des thèses pas très catholiques. Alors, Bernard Cesboué, voyant un petit peu comment la tournure des événements prenait forme, se disait, bon, il faut sauver la proposition et essayer de remettre l'étudiant dans le bon chemin pour qu'il puisse avoir sa thèse de doctorat et puis corriger ses erreurs ensuite. Alors, il lui pose la question, et c'est Bernard Cesboué lui-même qui raconte, hein. À votre avis, un homme peut-il avoir conscience de ses péchés si cela ne lui est pas révélé par l'Esprit Saint? Et l'étudiant de dire, non, enfin, on peut tout à fait se rendre compte de notre péché sans l'aide de l'Esprit Saint. Et le père Bernard Cesboué de conclure, à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire pour lui. On ne peut pas se rendre compte de nos péchés si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous éclaire. Et quand l'Esprit Saint, notamment dans la prière, met le doigt sur certains de nos zones d'ombre, de nos péchés, ce n'est jamais pour nous en accuser. Ça, c'est l'accusateur de nos frères, c'est le travail du démon. C'est jamais pour dire, tu vois comme t'es nul, tu vois rien, qu'est-ce que je vais faire de toi? Non, c'est toujours une invitation que l'Esprit Saint me lance pour me dire, est-ce que tu acceptes que je sois présent là, avec toi, et qu'ensemble on se débarrasse de ça, comme Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le terme grec est très intéressant. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas le sens du verbe istemi, le verbe grec, n'est pas voilà, je frappe. M'ouvrir ou pas, s'il ne m'ouvre pas, je enfonce la porte, ou bien s'il ne m'ouvre pas, je m'en vais, qu'est-ce qu'il fait? Non. Le sous-entendu, c'est je frappe à la porte et je suis fébrile. Est-ce qu'il va m'ouvrir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ou pas? Je ne vais pas défoncer la porte, j'ai qu'une envie, c'est que la porte me soit ouverte pour que j'entre pleinement en communion avec lui. C'est cela que l'Esprit-Saint m'indique quand j'ai conscience d'un péché qu'il me révèle. Fébrilement, Jésus me demande, est-ce que tu veux bien que j'intervienne là? Est-ce que tu veux bien qu'ensemble, on sorte de là? Alors, je reviens au jeune homme riche. Une fois que ce jeune homme riche entend ses commandements, il répond à Jésus, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Donc, il est de bonne volonté. Jésus posa alors son regard sur lui et il l'aima. Là aussi, Jésus ne sait pas faire autrement. Quand Jésus pose le regard sur nous, il nous aime. Pas possible qu'il en soit autrement. Et dans la prière, Jésus pose son regard sur nous. Qui que nous soyons, pécheurs ou pas, convertis ou pas, quand nous prions, nous avons devant nous notre Seigneur qui nous regarde et qui nous aime de son regard aimant. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Et il lui dit, voilà, travail de l'Esprit Saint, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on voit cet échange, alors malheureusement là il ne se termine pas bien puisque ce jeune homme riche rate sa vocation de consacrer, Bon, mais il fera ce qu'il pourra, ce jeune homme riche. Jésus dit pas qu'il va être condamné, hein, simplement il rate sa vocation à l'appel que Jésus lui a adressé. Mais vous voyez bien que Jésus, à plusieurs reprises, lui a montré dans la prière, c'est quoi, dans cet échange d'amitié, qu'est-ce qui te manque ? Allons de l'avant, je te montre comment on va aller de l'avant. Et justement, c'est le troisième point, dans la prière, dans ce recueillement, est un appel à aller plus avant. Dans ce moment-là, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, on ne peut mieux être disposé à prendre feu. Tout cela n'est qu'un début. Quand je suis en prière et que le recueillement est là, que je sente ou que je ne sente pas des choses, peu importe, c'est un appel à aller plus avant. Parce que si je reviens à ce jeune homme riche, qu'est-ce qui lui a manqué ? Qu'est-ce qui lui a manqué pour entendre cet appel à l'Esprit Saint venir mettre le doigt sur un point de sa vie, à mettre en ordre pour suivre plus entièrement Jésus-Christ ? Ce qui lui a manqué, c'est ce que l'Évangile dit, c'est qu'il est un néaniskos, c'est du grec, un néaniskos. Un néaniskos, c'est-à-dire que ce que nous on traduit en français très joliment, jeune homme, en fait c'est pas le mot grec. Le mot grec c'est un adolescent, un ado. T'es pas encore grand quoi, t'es pas encore mûr. Viens à ma suite, affermis-toi, continuons, mais ne t'imagine pas que ça y est, tu es mûr dans ta vie spirituelle, que tu es arrivé, que c'est bon. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus nous demande toujours de marcher à sa suite, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Jésus nous indique jamais, jamais comme but d'être arrivé et d'être assis. Faites un long chemin derrière moi jusqu'à ce que vous soyez assis. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, venez à ma suite. Je sais très bien que vous ne serez jamais assis parce qu'il y aura toujours des choses à revoir, vous ne serez jamais parfait. Mais j'en fais mon affaire. Mais marchez à ma suite. J'en fais mon affaire, tout ce qui manque chez vous, etc. Mais laissez-moi agir avec vous et marchons ensemble. Alors, puisque ce n'est pas encore fini, l'Esprit-Saint, dans notre prière, veut nous faire passer d'une oraison recueillie, d'une prière de recueillement, à une prière qui dilate le cœur, à une oraison de quiétude, si je reprends l'expression de notre mère Sainte Thérèse. Nous sommes appelés dans la prière, non pas seulement à rester dans un recueillement, mais à être dans une prière plus profonde encore, où le cœur va se dilater. À un moment donné, ma prière recueillie, avec mes cinq sens qui sont plus ou moins retranchés en moi, mais je vais me rendre compte que, sans que je l'ai voulu, ma volonté a été captée par cet aimant qui m'attire à lui. Un petit peu comme si j'étais un astéroïde qui se baladait dans l'univers, et qu'à un moment, vous voyez ce que c'est qu'un astéroïde, hein, c'est en fait une grosse pierre moche, il n'y a rien qui est dessus, c'est gris, c'est pas beau, hein, c'est vraiment pas beau, et donc il se balade, et puis à un moment donné, ouf, elle est prise par l'attraction d'un soleil, alors qui est feu, qui est clair, qui est chaud, et qui se met à tourner autour de lui sans qu'elle l'ait voulu, sans que cet astéroïde l'ait voulu. À un moment donné, dans notre prière, il y a ce passage qui s'effectue où ma prière est profonde et je suis comme captée, ma volonté est comme captée, sans qu'elle l'ait voulu, mais elle est complètement consentante tellement elle est heureuse d'être prise sous l'attraction de ce soleil. Sans aucun effort. Et ça peut être déroutant. Parce que dans un moment comme ça, je ne sais même plus si je suis en prière ou pas. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en prière, je dors, qu'est-ce qui se passe ? Je ne fais rien, mais ce n'est pas la prière, il faut faire quelque chose. Mais en fait, non. Je suis comme un enfant dans les bras de sa maman, comme cet astéroïde pris sous l'attraction du soleil, etc. C'est déroutant. Une jeune femme était venue me voir au couvent, une laïque, une trentaine d'années, qui avait une belle profession, qui a toujours une belle profession d'ailleurs, Et elle était venue me voir un peu inquiète parce qu'elle ne savait plus si elle priait ou pas. C'est-à-dire qu'elle me disait, je continue à prier, mais simplement, je suis juste là. Comme un petit bébé qu'on a mis dans un coin et puis qui fait rien. Et donc, elle se demandait si elle priait ou pas. Elle était complètement déroutée parce que ce n'était pas sa forme de prière jusque-là. Sa forme de prière, c'est une prière recueillie, où elle sentait bien qu'elle était recueillie. Et puis, elle en sentait les effets dans le reste de la journée. Mais là, il y a quelque chose qu'elle n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Et donc, elle en était inquiète. Et alors, je lui posais quelques questions, et notamment, je lui posais la question de savoir, mais est-ce que vous avez vu, repéré des effets concrets dans votre vie ? Alors, elle m'a dit, oui. J'en ai vu notamment deux. Le premier, c'est que chaque dimanche, je suis en famille, et puis alors j'ai un père qui a un point de vue politique, a des discussions passionnées et passionnelles. Moi, j'ai les opinions juste opposées à celles de mon père, et à chaque fois qu'on y va, on se clash, bien sûr. Sauf que maintenant, quand on parle de politique, je le laisse parler, je fais des réflexions, je lui laisse le dernier mot, je suis vraiment beaucoup moins susceptible qu'auparavant, et je garde beaucoup plus facilement mon calme. Et puis la deuxième chose qu'elle percevait, c'est qu'elle vivait dans une certaine, alors je vais prendre une expression de Saint Jean de la Croix, dans une certaine attention générale et amoureuse de Dieu. C'est-à-dire qu'au long de la journée, son cœur était comme habituellement tourné vers ce soleil intérieur, sans effort de sa part, de manière paisible, un peu comme si quelque chose de ce qu'elle vivait dans la prière rejaillissait dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elle était comme une personne amoureuse. C'est-à-dire qu'elle travaillait, et quand elle faisait une pause ou autre, elle s'apercevait que son cœur était orienté, pensait à Dieu, sans qu'elle l'ait voulu. Et en fait, elle était entrée dans cette prière plus profonde encore, qui s'appelle l'oraison de quiétude, qui dilate vraiment le cœur. Et du coup, quand on est arrivé à ce moment-là, après cette période où on est un petit peu dérouté, et j'en parle non pas parce que c'est l'apanage des saints, mais parce que Sainte Thérèse elle-même nous dit dans le livre des demeures, dans le château intérieur, que la plus grande majorité des chrétiens font cette expérience, avant malheureusement de retourner en arrière, quand elle parle des troisième et quatrième demeures. Parce qu'on est tellement dérouté que finalement on veut retourner en arrière. Alors que Dieu, lui, nous appelle dans un cercle vertueux à garder confiance. Et voilà ce qui arrive, d'après ce que nous dit Saint Jean de la Croix. Vous l'avez également sur le livret, c'est à la page 19. Il arrive souvent que la volonté est enflammée, attendrie et enamourée, sans savoir ni entendre rien en particulier de plus qu'auparavant, Dieu réglant l'amour en elle. Ainsi que dit l'épouse au Cantique des Cantiques, « Le roi m'a introduite au cellier à vin » et a réglé en moi la charité, a réglé en moi l'amour. En fait, dans ma prière, je me rends compte de manière confuse, mais c'est comme si, intérieurement, en mon âme, Dieu travaillait, je ne sais pas comment, mais il y avait quelque chose qui se passait. Un petit peu comme quand on est dans un hôtel, alors ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un hôtel, mais de mémoire, parfois on passe devant, dans un couloir, on passe devant des chambres d'hôtel, et puis il y a un petit écriteau posé sur la poignée, où c'est marqué « Do not disturb », ne pas déranger. Et on sait qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un. Est-ce que c'est celui qui a loué la chambre d'hôtel et puis qui continue à dormir parce qu'il a une longue nuit? Est-ce que c'est la femme de ménage qui fait son travail? On n'en sait rien, mais il y a quelque chose qui se passe. Et bien dans cette prière, c'est pareil. On sait confusément qu'en nous, il y a quelque chose qui se passe. Que Dieu travaille, que Dieu est à l'œuvre. On ne sait pas quoi. Par contre, on en voit les effets dans notre vie quotidienne. On en voit des effets dans notre vie quotidienne parce que je prie, Dieu travaille en moi. Quand je me relève, j'ai plus de force, plus de paix que j'en avais auparavant, j'ai plus d'énergie aussi, mon cœur est complètement aspiré vers ce Dieu divin qui l'aimante depuis la croix, et donc du coup, j'ai une vie plus réglée, plus aimante qu'auparavant. Et comme elle est plus réglée, plus aimante, lorsque je fréquente les sacrements et que je retourne à la prière, j'en recueille davantage de fruits parce que je suis mieux disposé. Donc du coup, ma prière s'approfondit. Et la répercussion dans ma vie quotidienne est encore un peu plus ample. Et comme elle est un peu plus ample, je suis un peu mieux disposé, enfin, le cercle vertueux dans lequel on entre. Et ce cercle vertueux va nous entraîner même jusqu'à une prière d'oraison, celle dont on parlait ce matin, où parfois, pendant un quart d'heure, on a une prière parfaite, si je peux dire ça comme ça, une prière où tous mes sens sont comme suspendus, tellement je suis happé par Dieu, tellement je suis en Dieu et lui en moi. Et là aussi, Thérèse d'Avila nous dit que cette expérience n'est pas rare chez les chrétiens, mais que ceux qui sont rares sont ceux qui acceptent de demeurer dans cette prière d'oraison qui a tellement de répercussions, dans cette prière d'union qui a tellement de répercussions dans notre vie. Dans cette forme de prière, on est complètement passif. Thérèse nous dit « L'âme n'a ici d'autre rôle que celui de la cire sur laquelle un autre Dieu imprime un cachet. La cire ne se marque pas elle-même, elle est seulement disposée par sa mollesse à recevoir cette impression. Et même, ce n'est pas elle qui s'amollit. Elle ne fait que rester immobile, sans opposer de résistance. Ici, poursuit-elle, on est endormi, et même profondément endormi, aux choses de la terre et à soi-même. Et de ce fait, pendant la courte durée de l'union, on est comme privé de sentiments. Quand on le voudrait, on se trouve hors d'état de pensée. Privé de sentiments, hors d'état de pensée, voilà, relevons ces termes très forts de Thérèse, on perd pied. Alors, pour vous donner une comparaison de ce qu'on vit dans cette prière, et pour vous donner vraiment une image combien ça peut être déroutant, je ne sais pas si vous avez déjà été à la plage, si vous êtes déjà baigné dans la mer, je pense que oui, pour le plus grand nombre d'entre vous. Et si un jour vous avez expérimenté ce qu'était une baïne. Donc on trouve ça, moi quand j'ai fait mon service militaire, c'était à Ourthin, près de Bordeaux, et à la plage, là où se trouve Lacano et d'autres villes célèbres, il y a parfois des baïnes. C'est-à-dire que on est dans l'eau, ou bien même sur la plage, et sous le sable, il y a des poches d'eau, et tout à coup une poche d'eau se crève, et ça libère l'eau qui, dans un courant impétueux, s'en va vers le large et emporte tout avec soi. Le plus grand danger, c'est de se débattre. Il faut, nous disent les maîtres nageurs, se laisser emporter par la baïne, ce qui est un peu stressant parce qu'elle nous emporte à 200-300 mètres, voire plus du large, parce que si on se débat, le courant est tellement fort qu'on se noie. Eh bien, un jour j'étais là sur une plage près de Lacano et il y avait une toute petite baïne. Alors j'ai fait mon malin, j'étais à l'endroit où était la baïne. Alors j'avais pied, hein, mais justement je voulais montrer que voilà, on me la faisait pas et tout. Vous savez les grands garçons. Hein. J'avais là, et bien ce qui m'a surpris, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que, d'accord, il y avait le courant là, qui voulait m'emporter vers le large, et là je me faisais fort de lui résister, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que comme le courant était fort, le sable se dérobait sous mes pieds lui-même. Et là j'ai vite fait de dégager, parce que sinon je me retrouvais loin. Dans la prière d'oraison, c'est ce qui se passe, on perd complètement pied, on est emporté au large, c'est très déroutant. Mais enfin, on est quand même au large dans l'océan de l'amour miséricordieux de Dieu. Donc laissons-nous faire. Et là aussi, ce n'est pas une affaire de sentiment ou de ressenti, ça dépasse les mots. Et on en voit surtout les effets dans notre vie quotidienne par la suite. On voit également surtout un cœur, le nôtre, qui a beaucoup plus de souffle qu'auparavant et qui peut aller plus loin avec moins d'efforts qu'auparavant. Alors on pourrait dire, alors ici juste une dernière petite chose, dans ce genre de prière, nos sens, nos cinq sens hein, sont non seulement recueillis, mais ils sont également engourdis, complètement engourdis. Teresa de los Andes, donc une sainte carmélite du début du XXe siècle chilienne, au Chili, faisait l'expérience, donc elle vivait cette oraison d'union, et parfois quand une sœur lui demandait quelque chose, elle entendait ce que la sœur lui demandait, mais sans qu'elle puisse se l'expliquer, il y avait un grand décalage, ce qui fait que la sœur se demandait si elle se foutait d'elle ou pas, quoi. Et donc d'un point de vue rationnel, c'était juste impossible à résoudre comme équation. Elle était tellement recueillie, tellement portée au large, que le temps que la parole vienne à connaissance de Teresa de los Andes, il s'était passé un bon bout de temps, si bien que la sœur qui a fait la demande se demandait, mais elle se moque de moi ou quoi. Alors, on pourrait dire stop, halte au feu, arrêtons-nous ici. D'accord, j'en suis pas là, moi. Cette oraison est hors de portée de ma modeste vie chrétienne. Et c'est là où sainte Thérèse nous répond de manière surprenante, comme je le disais tout à l'heure, mais là je la cite. Il en est bien peu qui n'entrent pas dans cette demeure avec cette oraison d'union. Comme il y a du plus et du moins, je dis que la plupart y entrent. Certaines des particularités qui s'y rencontrent sont, je crois, le partage du petit nombre. Donc Thérèse nous dit, voilà, on est le plus grand nombre à y être prédisposé. Mais on a toujours tendance à faire comme ce néaniskos, comme cet ado de la foi chrétienne. Non, c'est bon, là, je suis plus ou moins parvenu. Jésus m'a invité à le suivre, mais il m'a également dit de m'asseoir maintenant, c'est fini. En fait, non, Jésus ne dit pas ça. Continuons. Alors, on pourrait se dire, mais oui, mais c'est pas pour moi. Trop élevé. Moi, vous comprenez, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie avec mes enfants, je fais ce que je peux dans ma vie de foi chrétienne, pas pour moi. Ah, d'accord, pour les spécialistes, les professionnels que sont les carmélites, voire le petit carme que je suis, très bien, c'est pour vous, merci beaucoup. Mais en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord du tout avec cette façon de voir, et c'est Thérèse de Lisieux. Et c'est Thérèse d'Avila aussi. Alors, je vais rester avec Thérèse d'Avila, qui nous propose un raccourci pour prier bien mieux et bien vite. D'ailleurs, c'est elle-même qui le dit. Moi, je la cite. Si, en cette œuvre de Dieu en nous, notre part de concours est nulle, nous pouvons cependant beaucoup incliner Sa Majesté à nous en gratifier, et cela en nous mettant dans les dispositions voulues. Nous pouvons beaucoup incliner Sa Majesté à nous en gratifier, et pour cela, en nous mettant dans les dispositions voulues. Et quelle est cette disposition? Thérèse nous l'indique dans l'épilogue du livre des demeures. Je vous le conseille, si vous vous croyez indigne de pénétrer même dans la troisième demeure, c'est-à-dire au stade où votre prière est une prière de recueillement avec les cinq sens qui se retirent. Si vous vous croyez indigne de pénétrer même dans la troisième demeure, vous obtiendrez bien vite l'entrée de la cinquième, là où se trouve l'oraison d'union, la prière d'union à Dieu. Si je viens dans la prière avec humilité, si je m'estime être toujours dans la deuxième demeure, c'est-à-dire toujours être en train de me battre contre moi-même, contre l'attrait du monde, contre ma complaisance avec le démon, si je suis régulier, alors je peux légitimement croire que cette oraison, cette prière très profonde et très aidante au quotidien est à ma portée par la grâce de Dieu. L'humilité. Si nous nous croyons indignes, si nous allons à Dieu dans la prière avec humilité, comme ce publicain de tout à l'heure qui priait dans le temple en disant simplement « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis », alors on va faire des pas de géant, comme la petite Thérèse. Et on a l'illustration de ces pas de géants qui ont été faits en peu de temps, pour ne pas dire en un claquement de doigts, dans deux épisodes des évangiles, et je terminerai par là. J'ai pu en parler avec quelqu'un d'entre vous là tout à l'heure. Quelles sont les deux personnes que Jésus a citées en exemple et devant qui il a été en admiration? Il n'y en a que deux. Il n'y en a pas trois ou quatre dans les évangiles. Que deux. Le centurion romain, un païen, même pas un juif, indigne d'aller au temple. Il aurait été refusé. Il a construit la synagogue, très bien, indigne de pénétrer dans la synagogue et d'assister aux offices. Ce centurion va voir Jésus pour intercéder, non pas pour lui, mais pour un serviteur qui est malade. Et il dit avec beaucoup d'humilité, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Parole aussi humble que puissante sur le cœur de Jésus. Et Jésus ne résiste pas. Thérèse de Lisieux nous dit, « Il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. » Et ici, le centurion le prend par le cœur. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Il a fait un pas de géant du païen qu'il était, païen sympathisant. Il devient le modèle du croyant proposé à tout Israël. Le deuxième exemple, c'est l'humilité d'une femme cananéenne en Matthieu 15. Vous savez, cette femme syrophénicienne, grecque, de naissance, qui vient à Jésus en criant « Prends pitié de moi, fils de David, ma fille est fort tourmentée par un démon. » Et Jésus, qui n'a pas été envoyé pour les païens, ne lui répond pas. Quand elle arrive au pied de Jésus, Jésus lui répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors cette femme, elle comprend tout de suite ce que dit Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Le pain, c'est quoi? C'est le pain de la bonne doctrine. Tu ne connais pas la doctrine des Juifs. Tu ne sais pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu ne sais pas qui, moi, Jésus, je suis. Tu ne sais pas ce qui est bon ou pas. Tu ne connais pas les commandements de Moïse. Tu seras évangélisé, pas par moi, parce que moi j'ai été envoyé pour Israël, mais par les apôtres que le Père enverra une fois que j'aurai donné ma vie pour tout le monde, y compris pour toi, mais pas maintenant. La femme comprend très bien tout cela, sauf ce que je viens de dire. Elle comprend très bien que Jésus lui dit, en gros, tu ne sais pas qui je suis, tu ne connais pas le Dieu d'Israël. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alors les petits chiens, c'est une expression pas très valorisante, avec laquelle les Juifs désignaient les païens. Tu es une païenne. Je te rappelle tout simplement que tu ne connais pas le vrai Dieu, tu ne connais pas le vrai sens de la vie, tu ne connais pas ce qui est vraiment bien ou mal. Alors comment réagit cette femme? Quand même, elle aurait pu répondre à Jésus, « Quoi? J'ai fait tant de kilomètres pour venir te voir, ma fille est peut-être morte à l'heure où je te parle et c'est comme ça que tu me reçois ?» Ou alors, elle aurait très bien pu lui dire, « Attends, tu parles d'amour et tu te montres intolérante vis-à-vis de moi, là, qui a fait ces kilomètres pour venir à toi. » Non. Cette femme préfère s'abaisser, faire preuve d'humilité, et elle répond, « Je suis perdu. » Bon, c'est pas grave. De mémoire, elle répond, « Seigneur, justement, les petits chiens, mangent bien les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc en fait, elle dit, justement, oui, je reconnais que je ne sais pas qui tu es. Oui, je reconnais que ce sont les enfants d'Israël et pas moi qui suis grec, païenne, syrophénicienne. C'est pas moi qui connais la vérité, mais c'est eux. Je le reconnais. Mais justement, je demande qu'une toute petite partie, qu'un tout petit surplus de ton amour miséricordieux. Et là, Jésus est pris par le cœur, et il l'exauce. Et non seulement il l'exauce, mais ce sera la seule personne, avec le centurion, à qui il dira, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'advienne selon ton désir. » Je crois que nous sommes d'accord, frères et sœurs. Ce centurion et cette femme syrophénicienne, c'était pas... Pardon mes sœurs, c'était pas des consacrés, c'était pas des prêtres, c'était des laïcs. Donc, vous n'avez aucune excuse. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je termine cette école de raison. Donc, Croyez vraiment à la puissance de l'humilité, prenez Jésus par le cœur, il ne demande que cela, encore une fois, et il ne demande qu'à déverser ses flots de tendresse en vous, en nous, au sein de la prière, au sein des sacrements. Pour cela, il attend simplement la consolation, que nous le considérions, que nous prenions du temps pour lui au sein de la prière. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci beaucoup, chers frères. C'était une grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, merci de nous avoir dispensé la bonne parole. Je pense que chacun est content de cette journée et puis va repartir justement pour porter des fruits qu'il aura puisés dans la prière et que le Seigneur voudra bien faire rayonner. Donc, ce qu'on peut vous souhaiter à chacun, c'est d'avoir une détermination déterminée pour rechoisir chaque jour de suivre le Christ et de trouver le moment favorable de la prière au quotidien. Voilà, vous pouvez compter sur notre prière et on compte aussi sur la vôtre, parce que c'est important de se soutenir dans le chemin de la prière. Donc merci beaucoup, frère Cyril. Et puis voilà, donc là on va voir le temps de l'oraison à 5h, et puis pour ceux qui veulent y aller vêpres à 18h. Voilà, donc que chacun reste le temps qu'il peut, qu'il veut. Si vous avez besoin de faire un petit tour à l'accueil, c'est possible. Je pense qu'il doit rester des boissons. Et puis voilà. Et puis je vous ai mis au dos, à la dernière page du carnet, les prochaines dates pour les 400 ans et surtout pour ceux qui sont sur Angers. Donc il y a une école d'oraison qui se retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois. Donc là on a commencé un parcours sur les demeures. Donc la prochaine fois c'est mercredi prochain, le 11 mars, je crois que c'est ça, mercredi 11 à 20h30. Donc ce sera frère Anthony Joseph du couvent de Paris, qui viendra nous parler des cinquièmes demeures. Voilà. Donc, bonne suite à chacun, et à très bientôt, et à toujours dans la prière. Merci encore, frère Cyril. Merci. Oui, vous restez pour le... Oui, très bien. Frère Cyril, reste là encore jusque s'il y en a qui ont besoin. Et puis j'ai vu passer le père Yannick aussi, s'il y en a qui ont besoin pour se confesser ou pour échanger. Voilà, merci.